Y a-t-il?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour, la 71e édition du Festival de Cannes est achevée et nous sommes donc rentrés. Nous ne sommes plus sur la croisette marine.
Non. Et on est fatigué, mais on est là.
Oui, on est un peu bronzé quand même, on va pas se plaindre. Hein. donc, on va parler bien de ce festival de Cannes et on va parler aussi bien de films qu'on a vus là-bas.
Tout à fait, oui. Je vais vous parler donc du festival de Cannes, enfin du moins de la deuxième partie du festival. Et puis, je vais également vous parler de L'homme qui tua Don Quichotte, le nouveau film de Terry Gilliam, qui a enfin fait la clôture du Festival de Cannes après 30 ans de péripéties. Également, dans un tout autre registre, je vais vous parler du ciel étoilé au-dessus de ma tête, un film de Ilan Klipper.
Et puis moi, eh bien, j'ai pu voir Solo, eh bien, le spin-off de Star Wars, et c'était en hors compétition à Cannes, donc je vous en parlerai, puis je vous parlerai aussi bien de la compétition, au moins des films que j'ai pu voir, et on écoutera un petit son. C'est une rencontre, c'est une agent artistique pour des réalisateurs, des scénaristes, des auteurs, et je lui ai demandé eh bien, ce qu'elle faisait au Festival de Cannes. J'ai demandé à d'autres personnes, mais j'ai choisi de vous passer eh bien, plutôt ce petit son. Et puis Manu, qui lui a fait le tout début du festival et puis après est reparti, eh bien, nous parlera de Moutafoukaz. C'est un film d'animation qui sort le 23 mai sur les écrans. C'est Cinérama qui débute.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
La 71e édition du Festival de Cannes vient donc de se clôturer. Alors, histoire de bien boucler la boucle, hein, j'ai raté la cérémonie d'ouverture, j'ai raté la cérémonie de clôture. Et vraiment, cette clôture-ci, eh bien, j'aurais aimé y assister, ne serait-ce que pour le discours de Asia Argento, qui a jeté un froid mémorable, mais qui était nécessaire cette année sur ce festival réellement marqué par la libération de la parole.
I want to make a prediction.
Je souhaite prédire quelque chose.
Harvey
Weinstein ne sera jamais plus le bienvenu ici. C'est une disgrâce. Et toute une communauté lui a tourné le dos. Même ceux qui n'ont jamais dénoncé ces faits. Et parmi vous, dans le public, il y a ceux à qui on devrait pointer le doigt à cause de leur comportement envers les femmes. Un comportement indigne de cette industrie, indigne de n'importe quelle industrie. Vous savez qui vous êtes. Plus important encore, nous savons qui vous êtes. Et nous n'allons pas vous permettre de vivre dans l'impunité.
Alors autant Lars von Trier avait été persona non grata hein, quand il avait fait son petit déballage sur le nazisme, et il est revenu cette année à Cannes. Oui. Je pense que Harvey Weinstein.
Je suis pas sûr. À mon avis, peut-être dans un siècle ou deux, mais. Oui. C'est pas l'ordre du jour. Alors j'en parlais justement la semaine dernière, hein, l'une des images fortes de cette édition, c'est la montée des marches par 82 femmes, symbolisant les 82 réalisatrices seulement qui ont été sélectionnées en compétition depuis les débuts du Festival de Cannes. Les revendications ne se sont pas arrêtées là, puisque 16 comédiennes noires et métisses ont ensuite fait une montée des marches remarquée, entraînée par Aïssa Maïga, pour protester contre la sous-représentation des personnes noires dans le cinéma, et particulièrement le cinéma français surtout. Autre montée des marches en forme de protestation, la jeune comédienne libanaise Manal Issa, venue à Cannes défendre le film Mon tissu préféré, dont je vous parlerai ultérieurement, a profité de sa venue sur le tapis rouge pour brandir une pancarte appelant à cesser les attaques sur Gaza. Je précise d'ailleurs que Manal Issa a une double casquette peu commune, puisqu'elle est comédienne et ingénieure en robotique. Voilà. Autre personnalité libanaise très en verve cette année, la réalisatrice Nadine Labaki, qui a reçu le prix du jury pour son film Capharnaüm, en a profité pour rappeler eh bien, que la jeune comédienne de son propre film n'irait sans doute jamais à l'école et que l'enfance maltraitée était à la base des souffrances du monde. Et puis en parallèle de toutes ces femmes engagées, eh bien, il y a toujours des personnalités dont on ne comprend pas vraiment que Thierry Frémaux les laisse monter les marches, comme Nabila, qui, comme chacun le sait quand même, hein, voue une passion au cinéma d'auteur kirghize, quand même, hein, ça se sait. Et en même temps, eh bien, que la parole se libère, Il y en a certains qu'on aurait peut-être préféré ne pas entendre, comme Sting et Shaggy, qui ont clos la cérémonie par un concert ultra malaisant sur le tapis rouge. Alors, je n'ai rien contre Sting. Hein. Par contre, Shaggy, je rappelle quand même que c'est ce qui se faisait de plus pourri dans la musique en 2001. Et non, ça ne s'est pas bonifié avec le temps. Et puis, quelle idée de placer les lauréats et les jurys figés comme des statues sur les marches derrière eux pendant qu'ils chantent. On aurait pu croire, les voir comme ça, qu'ils étaient punis. Alors, en même temps, danser avec une robe Chanel et une palme d'or dans les mains, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas facile. Alors, non pas que l'on soit contre un peu de nouveauté hein, dans la mise en scène de la cérémonie officielle, mais quand l'on sait que Sting et Shaggy sortent un nouvel album ensemble, on a un peu l'impression que le Festival de Cannes devient le plateau de Taratata. Et vraiment, on s'en serait bien passé. On écoute quand même. Send a message across the buckle. Make your heart clean struggle. Here we go. Hey! Just a cast away, an island lost at sea. Oh. Hey, hey! Another lonely day with no one here but me. Oh. Whoa. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone.
Voilà, Cannes. Donc, eh bien, ça, c'était un peu l'ambiance que tu as pu avoir, toi. Moi, c'était un peu bien différent. Il y a toujours un peu de déception hein, quand on découvre le palmarès du Festival de Cannes et qu'on s'aperçoit eh bien, que parmi les lauréats, on n'a vu que la moitié des films et que dans la moitié qu'on a vu, eh bien, il n'y a pas les films qu'on attendait. Ainsi, je regrette qu'il n'y ait eu aucun prix pour le formidable Leto du russe contraint à résidence Kirill Serebrennikov. Alors, il faudra attendre décembre prochain hein, pour vivre grâce à une mise en scène inventive, la trajectoire de deux grands noms du rock soviétique. Pour moi, c'est le grand perdant de ce Cannes 2018. Le film avait sans doute le tort hein, de ne pas présenter des enjeux politiques évidents. Mais il a eu un lot de consolation, non officiel celui-ci, hein, c'est le prix de la meilleure bande-son. Et si je n'ai pas vu La Palme d'Or, eh bien, préférant aussi aller voir des films de la quinzaine des réalisateurs, autre programmation cannoise, plutôt que L'Affaire de famille de Kore-eda Hirokazu, eh bien, j'ai tout de même vu le grand prix du jury accordé à Spike Lee pour Black Landsman. Ce n'est sûrement pas un mauvais film, hein, mais ce n'est pas non plus un grand film. Il bénéficie sans aucun doute de l'actualité de son sujet, à savoir la discrimination raciale aux États-Unis et les violences vis-à-vis des Noirs. Et dans une ambiance flirtant avec la comédie, on y voit un flic noir infiltrer le Ku Klux Klan. Le film de Spike Lee dans les salles en août a l'avantage d'être grand public, sans renier l'émotion, la rigueur et l'humour. Alors là où je suis le plus en phase finalement avec le jury cannois, c'est pour le prix de la mise en scène décerné à Pavel Pawlikowski pour Cold War, un film polonais en noir et blanc. Filmé en 4 tiers, qui nous plonge dans une histoire d'amour contrariée par la guerre froide, avec un final malin et puis vraiment, vraiment inoubliable. Alors on attendra octobre pour le voir, celui-ci. Par ailleurs, on pourra faire l'impasse sur Trois visages de Jafar Panahi. Le réalisateur a remporté le prix du scénario ex aequo avec Heureux comme Lazaro, que je n'ai pas vu. Et j'avoue que je ne comprends pas comment on peut donner le prix du scénario à une œuvre aussi simple. Hein, certes, Jafar Panahi est contrarié par le pouvoir iranien et peut difficilement faire des films, mais il reprend le principe à l'œuvre dans Taxi Téhéran, son précédent film, situant son film encore dans une voiture qui cette fois-ci eh bien, s'en va pour un road movie dans la partie turcophone du pays. Tradition, modernité, réconciliation, on est placé dans un dispositif de mise en abîme puisque le réalisateur comme l'actrice joue, eh bien, ils jouent leur propre rôle. Mais il y a beaucoup de bavardage et la censure eh bien, n'excuse pas tout. Quand on pense à un homme intègre, hein, un autre film iranien projeté l'an dernier à Cannes, eh bien, là il y avait sans doute matière à récompenser le scénario. Mais un des grands plaisirs de Cannes cette année aura été de voir le dernier film de Pierre Salvadori, En liberté. Salvadori est l'un des plus grands faiseurs de comédie du cinéma français. Le public de la quinzaine des réalisateurs a fait un triomphe aux acteurs du film, Pio Marmaille et Adèle Hanel, deux comédiens par ailleurs que j'aime beaucoup et qui s'en tirent très bien donc, dans cette comédie qui s'amuse de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas en puisant sa matière comique dans les faux-semblants. Ce film a reçu le prix SACD, la quinzaine des réalisateurs, alors c'est mieux que rien, et il le mérite tant le scénario, les dialogues, les gags et les bons mots comme les acteurs concourent au succès d'un film qu'on n'oublie pas. Et là encore, eh bien, il faudra attendre octobre pour s'en imprégner. Il y a beaucoup de films hein, qui étaient présents à Cannes et qui sortiront à partir de septembre et en octobre. Il y en a aussi quelques-uns qui sortiront cet été et forcément, eh bien, en vous en parlera au fur et à mesure où ils sortiront ces films. On ne va pas revenir sur l'ensemble du palmarès, mais on va tout de même écouter des gens qu'on a rencontrés là-bas.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Et donc à Cannes, bien, quand on est dans les files d'attente, on peut faire des rencontres. Et j'en ai fait quelques-unes, et notamment celle de Céline Edouard. Céline Edouard est une agent artistique, elle est parisienne, et comme beaucoup de Parisiens, eh bien, pendant le Festival de Cannes, en tout cas ceux qui travaillent dans le cinéma, eh bien, descendent à Cannes pour se voir entre eux. C'est ce qu'elle va nous raconter. Alors Céline Edouard est agent artistique. Alors, un peu pour les réalisateurs, les auteurs, les scénaristes émergents. Et donc, elle a beaucoup de travail pour les faire émerger. Elle nous parle eh bien, de sa présence à Cannes. Bonjour, Solène Edouard. Donc, on est ici à Cannes. Et vous, c'est un rendez-vous que vous ne manquez pas ?
Ah non. Non, c'est vraiment un endroit où on vient tous les ans, plus ou moins longtemps. Il y a des années où on vient quelques jours et des années où on reste la totalité du festival. Mais ouais c'est un immanquable.
Alors, dans le cadre de votre profession, donc agent artistique pour réalisateur, auteur, scénariste, qu'est-ce que vous venez faire ici ? Est-ce que c'est important, finalement, d'être ici sur la Croisette ?
Alors, c'est important parce qu'on ne sait jamais qui on va croiser sur la Croisette, quand même. Et donc, c'est important parce qu'il y a tous les gens, effectivement, qu'on pourrait voir à Paris, mais qu'on ne voit pas forcément, qui sont tous au même moment, au même endroit. Et d'un rendez-vous à un autre, ça amène, des rencontres qui sont évidemment spontanées et pas toujours prévues. Et surtout aussi des rencontres entre des gens qu'on n'aurait pas pensé qu'ils allaient bien s'entendre. Et donc, au détour d'une soirée, d'un dîner ou une sortie de projection, on va se retrouver entre deux personnes, des personnes qu'on n'avait pas forcément pensé qu'ils pourraient travailler ensemble, et tout de suite on va se dire un clic, une envie de faire quelque chose ou pas. Mais c'est tout le monde est là et c'est important pour nous d'être là, de faire les connexions qu'on n'aurait pas forcément pensé à faire tout seul dans son bureau à Paris.
Qu'est-ce que vous pensez de cette édition cannoise ? Il y a sans doute des différences depuis le temps que vous suivez Cannes.
C'est très calme. C'est très calme. Je trouve que ça manque un tout petit peu de folie. On avait déjà un peu cette impression l'an dernier. Et là, je trouve ça très vide et très calme. Ce qui n'est pas forcément désagréable. Ça veut dire qu'on peut passer peut-être plus de temps dans les salles de projection et un peu moins dans les fêtes. Mais il y a moins d'euphorie, il y a moins de folie. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais ça, c'est un vrai constat.
Alors, ce sont des choses que j'ai entendues par ailleurs, qui avaient
confirme.
Un peu moins de fantaisie au fur et à mesure que les éditions avancent. Voilà, peut-être que ça changera. Et bien, c'était l'occasion presque de refermer cette édition cannoise, parce qu'on va quand même parler des films qu'on a vus, et il y en a certains qui sont déjà dans les salles.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Dans quelle branche souhaitez-vous vous engager ?
Je serai pilote. Le meilleur de la galaxie.
Votre nom ?
Alors évidemment, il y a des films qui sont en compétition à Cannes, il y a aussi les films qui sont hors compétition. Il y avait le Lars von Trier de House That Jack Built, qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il est quand même relativement cruel, mais ça je vous en parlerai au moment de sa sortie. Et il y avait aussi Solo de Ron Howard. Alors Star Wars et le Festival de Cannes, eh bien c'est presque une histoire d'amour, car cela fait déjà la troisième fois qu'un film de la saga y est projeté hors compétition, puisqu'il y a eu L'Attaque des Clones en 2002 et La Revanche des Sith en 2005. Mais le problème posé par cette incursion de la grosse machinerie américaine dans le festival, c'est qu'après avoir vu une quinzaine de films parlant des maux du monde ou de la famille, eh bien on se retrouve avec un déluge sonore de pistolets laser, de batailles galactiques et de bourre-pif. Une fois dans la salle, eh bien pendant les premières minutes, il faut déjà un petit temps pour s'habituer à ce nouveau climat cinématographique. Mais la musique du générique, si caractéristique de Star Wars, a la capacité d'hérisser le poil de certains biberonnés aux croisades galactiques depuis les années 70. Alors, signe que la saga a évidemment des adeptes et qu'elle peut aussi se permettre de nous offrir des parenthèses. Après tout, la série, vu la multitude de personnages attachants, eh bien, se prête à de nombreux épisodes pouvant éclairer telle ou telle trajectoire des héros de la rébellion et même des autres. Alors, je l'avoue, je me réjouissais de voir Solo, le spin-off de la saga Star Wars, dévoilant comment Han Solo rencontrait son acolyte poilu Chewbacca et croisait la route du sympathique escroc Lando Calrissian. D'autant que j'avais beaucoup apprécié le précédent spin-off, Rogue One. On y apprenait eh bien, comment la rébellion avait volé les plans de l'étoile noire. Et tant dans l'image que dans le scénario, eh bien, cet épisode plus sombre que les autres éloignait la saga de l'euphorie d'armes laser. Mais j'avoue que pour ce Solo, une fois le générique tombé, et même quelques jours après, Eh bien, la déception est tenace. Pour faire simple, Solo n'est qu'un greffon de Star Wars qui, avec des ingrédients propres aux films d'action et aux westerns, joue la carte de la familiarité. On finit presque par se moquer de ce que font les personnages, et c'est tant mieux car ils ne font pas grand-chose à part chercher du super carburant. Alors bien sûr, cette quête donne l'occasion de faire de belles rencontres, hein, des alliances de circonstances, et de tomber dans des pièges ou dans des jouets. Suspense, surprise et rebondissement, tous les ingrédients sont là pour un spectacle conventionnel qui s'accommode de tous les publics. Alors autant les férus de Star Wars que tous ceux qui veulent du divertissement. Toutefois, les univers sont plus communs qu'habituellement et la mise en scène de Ron Howard, eh bien, s'abreuve de quelques tics trop voyants comme les nombreuses séquences. Alors c'est déjà visible dans la bande-annonce où Solo, eh bien, s'annonce comme un personnage de western. Concernant Solo, justement, certes, on ne remplace pas Harrison Ford si simplement, mais là, même s'il s'agit de sa jeunesse de pilote du Faucon Millennium, eh bien, on est loin de l'ironie, du mordant et de la désinvolture du Solo bien dans les bras de la princesse Leia. Toutefois, une certaine bonté, maladresse et intelligence caractérisent le futur contrebandier, ce qui le rend attachant, mais il y a quelqu'un qui lui vaudrait presque la vedette.
T'avais pas une version VF ? Parce que là, vraiment, on comprend rien.
Alors évidemment, Chewbacca lui volerait presque la vedette, hein, parce que ce dernier, eh bien, n'a pas à parler, il est dans l'action. Mais la mise en scène se borne à nous montrer comment Solo s'amourage du Wookiee, alors qu'on aurait aimé, eh bien, peut-être en savoir davantage, hein, sur ce personnage, comme sur d'autres d'ailleurs, notamment, eh bien, le personnage de Bandy, interprété par Woody Harrelson, acteur que j'en viens à supporter difficilement, hein, d'ailleurs, dans les longs métrages. Sa prestation désastreuse dans le dernier opus de La Planète des Singes y étant pour beaucoup. Côté effets visuels, évidemment, eh bien, qu'ils sont présents, hein, sans toutefois nous soulever de notre siège. J'ai trouvé l'univers graphique de la planète que quitte Solo, où il n'est qu'un souillard particulièrement pauvre, finalement dans des tons assez grisâtres, et donc assez simplistes finalement. En définitive, ce Solo est une entreprise inachevée, dotée d'un scénario sans imagination, d'une mise en scène trop poussive. Et si cet épisode nous fait découvrir des personnages, il les éclipse derrière la figure de Solo, dont l'interprétation est rendue délicate par l'aura d'Harrison Ford. Alors, Alden Ehrenreich, je ne sais pas exactement comment on dit, ça doit être ça. Hein,
ouais. Ne te tourne pas vers moi.
Eh bien, ne démérite pas le genou, mais il reste tout de même un petit goût de déception. Alors pourtant, on ne peut pas dire que Solo, hein, est mauvais, enfin, il ne faut pas non plus exagérer, mais il s'agit pourtant d'un épisode oubliable qui est donc maintenant présent dans les salles depuis le 23 mai.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Et on passe donc à un autre film qu'on a vu à Cannes, auquel on ne croyait plus, c'est bien donc L'homme qui tua Don Quichotte, le dernier film de Terry Gilliam. Film à propos duquel il a dit que, eh bien, s'il y avait au moins une chose qu'il avait prouvée grâce à son film, c'était bien l'existence de Dieu, référence à la quantité improbable de malheurs qui lui sont tombés dessus au cours de l'élaboration du film. Pas loin de 30 ans de gestation, donc, pour L'homme qui tua Don Quichotte. Autant dire que le bébé avait intérêt à être beau. On ne va peut-être pas faire la liste, hein, de tous les déboires que le tournage du film a connus, car le problème justement concernant ce film, eh bien, c'est que l'on aurait davantage envie de parler du tournage que du film en lui-même. Alors cette nouvelle version du film, puisque la première qui n'a jamais été terminée comportait Jean Rochefort et Johnny Depp dans les rôles principaux, cette nouvelle version donc se nourrit véritablement de ce tournage apocalyptique. En fait, c'est un métafilm qui parle de sa propre gestation. Nous suivons l'histoire de Toby, interprété par Adam Driver, réalisateur qui s'est perdu dans les méandres de la pub, mais qui réalisa jadis sa version de Don Quichotte. Revenu pour un tournage dans la même région d'Espagne, il retrouve le vieillard qui joua naguère le chevalier au triste visage. Problème, il est resté bloqué dans son rôle et va entraîner le jeune réalisateur dans sa folie. Alors tout ceci est évidemment prétexte à une réflexion sur le cinéma. C'est une parabole évidente, hein, sur la confection du film lui-même et les obstacles auxquels il s'est heurté. Comme souvent chez Terry Gilliam, eh ben, le personnage principal est projeté dans un monde à la fois merveilleux et terrifiant, dans une quête de lui-même. Et ici, le réalisateur malchanceux est personnifié à la fois par le chevalier et par son écuyer. Alors, léger problème, hein, en voyant le film, bah, je me suis rappelé que j'aimais pas Terry Gilliam. Dommage, ça m'est revenu trop tard. Non, je trouve ça d'une lourdeur incroyable. Tout est excessif, les angles de vue, le grotesque des situations, cette fantaisie cheap, ces personnages excessifs, sans profondeur. Il y a plein de bonnes idées, voire des idées géniales, mais il n'y a pas la bonne idée qui pourrait rendre l'ensemble cohérent. Il ne manque pas grand-chose pour adhérer à cet univers, malheureusement. Eh bien, le film rate sa cible, de peu.
En tout cas, on a appris pendant le festival hein, qu'il allait être diffusé, qu'il allait le clôturer. C'était pas gagné.
C'était presque trop beau pour être vrai d'ailleurs, cette mise en scène justement.
Oui. Et pourtant, faire une mise en scène avec la justice, c'est un peu compliqué, mais ils y sont arrivés. Comme quoi, ils ont le bras long, hein, ces gens du cinéma.
Incroyable. Ouais.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça ? Une blague ou quoi ?
Manu était présent au festival, mais une toute petite partie. Ensuite, il est revenu. Et puis, heureusement, il avait vu un dessin animé, Muta Fukaz, qui est sur les écrans depuis le 23 mai. Il nous en parle.
Mon nom, c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Mid City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Dark Mid City, DMC. Comme dégueu, merdique et crado. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse sans trop me poser de questions. Jusqu'à ce moment précis.
Au départ, il s'agit presque d'un défi, celui d'adapter les 600 pages de la BD Muta Fukaz en un long métrage de 90 minutes. La richesse de la palette graphique articulant multiples influences et la complexité d'un scénario gigogne foisonnant de sous-intrigues et digressions avaient de quoi inquiéter le fan du matériau d'origine. Pourtant, Guillaume Renard, alias Run, a foncé tête baissée dans l'aventure grâce au courage d'Anthony Roux, déjà producteur de Dofus Livre 1, Judith, alors qu'il fut pourtant un flop au box-office. Pour ne rien laisser au hasard et éviter les approximations esthétiques, Roux est allé chercher de l'aide au Japon au studio 4 degrés C, responsable du visuel ébouriffant d'Animatrix et Sumemu de Mamoru Oshii. Alors inexpérimenté, hein, Run se voit épaulé à la direction par le réalisateur d'Amer Béton, Chujiro Nishimi, coproduction franco-japonaise à l'instar des Muta Fukaz qui, avant même un quelconque visionnage, semblait partir sous les meilleurs auspices. Alors, pour quel résultat ? Un sans faute, pour peu que l'on goûte à l'univers bariolé et transgressif du manga, matiné de l'esprit arty des graffeurs US en passant par les hommages aux BD cultes américaines issues de la contre-culture. Le script respecte l'histoire originale tout en resserrant au maximum les thématiques et en abandonnant tout ce qui aurait été inutile ou compliqué à tourner. Bref, un vrai travail d'adaptation intelligent et parfois un peu frustrant qui a été opéré. Alors ce qu'il reste à l'écran est néanmoins toujours aussi délirant. Jeune loser vivant à Dark Mid City, une sorte de mégalopole futuriste située au cœur de la Californie, Angelino livre des pizzas toute la journée. La nuit, il squatte une chambre d'un hôtel minable avec son pote Vince et une cohorte de cafards. Alors après un accident scooter, suite aussi à sa rencontre avec la belle Luna, Angelino se plaint de maux de tête et commence à avoir d'étranges hallucinations. Ou pas, car au même moment, des Men in Black sont à sa recherche ayant pour mission de l'éliminer. Mais pourquoi ? Qui est en réalité Angelino, qui n'est peut-être pas tant un loser que ça, mais un personnage important recelant de multiples secrets, à commencer par ses origines.
Faut regarder les choses en face. On n'est pas mieux que tous ces zombies, on n'a pas d'argent, pas d'ambition, pas d'espoir.
Ensemble, pourrions faire de grandes choses.
Moi, je voudrais juste être quelqu'un.
Après avoir écumé les festivals, Muta Fukaz sort enfin en salle pour le plus grand bonheur des amateurs de films d'animation délurés, puisant son inspiration dans l'antichambre de la culture officielle. Alors porté par un graphisme inventif et tonique, ce néo-manga bouscule les conventions avec un appétit revigorant, ne laissant jamais le spectateur souffler, pris dans un tourbillon de péripéties, en gardant en tête une ligne narrative précise. Cocktail euphorisant d'influences punk, post-nuke, manga et SF vintage, Muta Fukaz n'est jamais noyé par ses références parfois très évidentes, à commencer par Invasion Los Angeles de John Carpenter, cité à de nombreuses reprises. Cet animé ludique trouve sa singularité grâce à l'originalité d'un dessin qui assume parfois son côté enfantin, la place donnée à des personnages qui existent réellement et à la mise en scène de Shujiro Nishimi, ultra nerveuse mais d'une lisibilité à toute épreuve, se pliant aux exigences du récit. Un exploit en la matière pour cet animé à la croisée d'Akira et du dessin et du cinéma de John Carpenter, un petit bonheur printanier, drôle, inquiétant et fun, de la première à la dernière image.
Ça ferait une bonne punchline, ça. Bam.
Eh bien voilà un dessin animé plutôt pour adultes, Muta Fukaz, qui est dans les salles donc, depuis le 23 mai, Marine.
Oui, et je précise que l'une des trois voix principales, Redouane Arjan, c'est un comédien que l'on a découvert dans le film M de Sarah Forestier, qui était en lice pour les derniers Césars. Et je recommande vraiment de voir ce film, rattrapez-le si vous ne l'avez pas encore vu. Il est incroyable dedans, mais vraiment il aurait mérité complètement le César du meilleur espoir masculin.
Donc ça fait plusieurs films à voir déjà depuis le début de cette émission et on va continuer, on va même terminer avec ça. C'est une autre sortie qui n'a absolument rien à voir avec Cannes, même si dans la bande-annonce, ils ont mis le fameux générique cannois.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Je m'appelle Sophie Andreu.
Ah, Sophie.
L'amour arrivé.
Tu crois que c'est un rendez-vous galant ?
C'est l'impression, ouais.
Comme un coup de poing.
Hospitalisation à la demande d'un tiers, vous voyez ? Si ce n'est de vos parents.
Tu es sale !
Vous n'avez pas le droit d'être là !
C'est ça, non, les pervers narcissiques.
Ne me touche pas !
J'ai l'impression qu'on est un peu du côté de la paranoïa.
Dis-le, pourquoi tu veux plus nous voir ?
Mon petit Bruno, notre argent. Tu l'auras quand on sera mort.
Voilà, on enchaîne donc avec Le ciel étoilé au-dessus de ma tête de Ilan Klipper. Bruno a été un écrivain à succès, mais le temps a passé et victime d'un trop-plein, au contraire d'un manque d'inspiration. Voilà maintenant longtemps que Bruno n'a rien publié. Il vit à son propre rythme, de préférence la nuit, nu, en écoutant du rock et en parlant à sa perruche, et partage une maison avec une jeune fémène qui s'accommode fort bien de ce colloque étrange. Jusqu'au jour où la famille de Bruno, inquiète, décide de tenter une intervention avec l'aide d'une psychiatre pour faire interner l'écrivain que tous commencent à trouver un peu trop marginal.
Vous courez tout nu la nuit dans la cage d'escalier ? On est dans les toilettes.
Il y a eu comme un flash et j'ai ressenti un frisson.
L'histoire de ce type qui n'arrive plus à sortir de chez lui. Il s'agit de vous. Je pense que vous êtes sur une ligne de crête, très haut, près des nuages, là où se trouve l'inspiration.
Le ciel étoilé au-dessus de ma tête. Quelle blague ! Et puis quoi encore ?
Alors, le ciel étoilé au-dessus de ma tête tient son titre, pardon, d'une phrase de Kant. Il n'y a que deux choses immuables et éternelles, le ciel étoilé au-dessus de nos têtes et la loi morale au fond de nos cœurs. Alors pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je trouve ça très cool de citer Kant dans Cinérama.
Tu fais bien.
Et voilà, hein, on n'a jamais assez de Kant dans Cinérama. Ilan Klipper a tourné son film à la façon d'une pièce de théâtre, dans un lieu unique, la maison donc où vit Bruno, avec des personnages qui entrent, qui sortent, le tout allant dans un crescendo sympathique jusqu'à un grand n'importe quoi final, aussi jouissif qu'imprévisible. Non seulement nous sommes dans sa maison, mais le film nous emmène véritablement dans la tête de Bruno, qui est son espace de vie, de jeu, de création. Et une fois ce postulat fantaisiste accepté, le spectateur peut se laisser aller à une tragicomédie assez singulière. Mais plus sérieusement, sous des dehors de films originaux et joyeusement bordéliques, Le ciel étoilé propose une réflexion sur l'inspiration, sur le génie et sur ce qui est socialement admis. En effet, on admire dans notre société les artistes, mais sans chercher vraiment à comprendre leur processus créatif. Alors est-ce qu'il faut être fou pour être artiste, ou est-ce que c'est d'être artiste qui en fou ? A-t-on encore le droit d'être marginal ? Et finalement, est-ce un signe de bonne santé mentale que d'être bien intégré à une société malade ? Laurent Poitronneau, qui incarne le rôle principal, porte véritablement ce personnage complexe et porte même, on peut le dire, le film, en compagnie de Camille Chamou, qui est excellente aussi. Un film décalé, réussi, qui n'a pas peur lui aussi d'être en marge du cinéma actuel, de suivre une musique qui lui est propre, avec des personnages hauts en couleur, un scénario qui brouille les pistes et une jolie et surprenante conclusion. Moi, je le recommande.
C'est une bonne idée en plus que Poitronneau, qui est plutôt habitué au second rôle, ait maintenant un rôle, un premier rôle dans un film. Et pour terminer avec Kant, puisque tu parlais de la loi morale, tu connais les trois questions kantiennes ?
Non.
Que puis-je savoir ? Que puis-je faire ? Et que dois-je faire ? Et que m'est-il permis d'espérer ? Voilà. On vous laisse avec ça.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il n'y a pas contrôlé qui est, qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est, qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Voilà, c'était encore une émission qui clôturait finalement Cannes, comme Cannes s'est clôturé. Et la semaine prochaine, il n'en sera plus question. On parlera de l'actualité cinématographique.
À la semaine prochaine.